France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est depuis un tribunal de Tizi Ouzou que doit être rendue aujourd'hui une décision très attendue dans le procès en appel du journaliste français Christophe Glaize, détenu depuis sa condamnation fin juin. À 7 années de prison, on reviendra sur les raisons de son incarcération. On en parlera également avec notre invité. On tâchera par ailleurs de comprendre pourquoi l'avionneur Airbus traverse depuis quelques jours maintenant une zone de très forte turbulence. À suivre aussi l'inculpation ce matin par le parquet européen de l'ancienne chef de la diplomatie du vieux continent. On se rendra à Bruxelles après la signature d'un accord actant la fin des importations de gaz russe à l'automne 2027. Enfin, on vous proposera une nouvelle rencontre artistique à découvrir à partir d'aujourd'hui entre les époques et les continents. À la faveur d'un apaisement des relations entre la France et l'Algérie, son avocat dit espérer une issue favorable. C'est aujourd'hui donc que Christophe Glaize doit être fixé sur son sort, coupable d'avoir exercé son métier de journaliste. Le français collaborateur de SoFoot et Society, arrêté en mai de l'année dernière, condamné en première instance à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et rejugé en appel depuis ce matin. Alors par apologie du terrorisme, en réalité, ce qu'il faut entendre, c'est le reproche qui lui est fait par la justice algérienne de s'être entretenue dans le cadre de ses reportages avec le dirigeant d'un club de foot, également responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, une organisation classée terroriste par Alger. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
On va bien sûr essayer de comprendre pourquoi ce mouvement est classé terroriste, ce qui justifierait, donc selon Alger, les accusations portées contre Christophe Glaize. Mais avant cela, retraçons avec vous l'histoire de ce mouvement et pourquoi est-il autant, Anne-Laure, éruptif en Algérie.
Alors, il s'agit d'un mouvement né en 2001 après ce qu'on a appelé le printemps noir qui s'est déroulé en Kabylie, cette région du nord-est de l'Algérie. Un lycéen est tué dans une gendarmerie. S'en suivent des émeutes réprimées par le pouvoir algérien. Le bilan est très lourd. 126 morts et 5000 blessés. D'abord partisan d'une autonomie, le mouvement revendique ensuite l'indépendance. Et en 2021, cette organisation est donc classée terroriste par Alger. Les autorités l'accusent notamment d'être à l'origine des incendies meurtriers qui ont ravagé la Kabylie en 2021. Ses membres sont poursuivis, certains sont en prison, d'autres ont fui le pays. Et aujourd'hui, le mouvement est surtout actif à l'étranger et notamment en France, où vit son fondateur, le chanteur Ferhat Mehenni, 74 ans. En novembre 2022, un tribunal d'Alger l'a condamné par contumace à la prison à perpétuité. Le 14 décembre, il mettra d'ailleurs la lumière sur ses revendications en proclamant à Paris la déclaration d'indépendance de la Kabylie.
Merci Anne-Laure Jumet pour continuer d'évoquer donc cette longue attente qui pourrait durer toute la journée avant de connaître le sort réservé à Christophe Glaize, invité à présent de la rédaction. Mouloud Boumgar, professeur de droit à l'université de Picardie, Jules Verne. Bonjour monsieur. On l'a dit, Christophe Glaize a donc été arrêté en mai 2024 alors qu'il travaillait sur un club de foot, le JSK, pour Jeunesse Sportive de Kabylie. Ce n'est a priori pas pour son travail donc sur ce club symbolique de l'identité kabyle en Algérie que lui a valu donc cette arrestation, mais le fait d'être rentré en contact à cette occasion avec le président, cette fois-ci de la Fédération Kabyle de Football, membre de ce fameux MAC dont Anne-Laure Jumet vient de nous retracer l'histoire. Quelle est justement la place de l'identité kabyle en Algérie?
Alors, bonjour, merci pour l'invitation. La place de l'identité kabyle, ou en plus exactement la place de la Kabylie dans l'ensemble algérien, en Algérie, et c'est celle d'une identité, d'une région à forte identité culturelle et politique. Culturelle parce que c'est une région qui se distingue par la langue kabyle, une variante du berbère, qui est l'un des moteurs de la revendication culturelle berbère pour l'Algérie, pour l'ensemble de l'Algérie, et même de l'Afrique du Nord. Et deuxièmement, c'est une région à forte identité politique, parce que c'est une identité... Alors, c'est une région qu'on dit rebelle, mais qui se caractérise par un comportement politique différent. C'est l'un des moteurs de la revendication démocratique pour l'ensemble de l'Algérie aussi, et qui aussi a une tendance à contester le pouvoir, à la fois à rejeter les partis islamistes et à rejeter les partis du pouvoir en place. Donc elle se caractérise, elle a une singularité au sein de l'Algérie et elle est productrice d'un certain nombre d'élites universitaires, mais qui sont aussi dans les rouages de l'État, qui sont dans l'économie. Et donc c'est une région qui occupe une place singulière au sein de l'Algérie, qui par ailleurs reconnaît dans son préambule de sa constitution Tamazirt, la mazirité, le berbère, comme une composante de l'identité nationale algérienne avec l'arabe et l'islam, et qui reconnaît aujourd'hui, même si il y a beaucoup d'éléments à mettre en place pour que ça se réalise, le berbère, dans ses variantes régionales, comme étant une langue nationale et officielle.
Est-ce que l'arrestation, puis la condamnation, donc en première instance de Christophe Gless, traduit selon vous un durcissement du pouvoir vis-à-vis de tout ce qui s'approche justement d'un mouvement dit contestataire ?
Effectivement, on voit que, vous savez qu'il y a eu un mouvement pro-démocratie en 2019, le Hirak, qui a été réprimé et qui a été empêché de s'exprimer par les manifestations à partir de juin 2021. À partir de juin 2021, il n'y a plus de manifestations en Algérie. Il n'y a plus de manifestations en Algérie. Et votre consoeur l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une intensification de la répression avec un élargissement de la définition du terrorisme qui inclut aujourd'hui, parmi les éléments de définition, le séparatisme, mais, et donc la question du MAC, mais aussi le fait de revendiquer un changement du système de gouvernance politique par des moyens non constitutionnels. Un moyen non constitutionnel, non prévu par la Constitution, par exemple, demander une assemblée constituante ou une période de transition politique. Et vous voyez qu'on peut glisser très facilement, avec une définition aussi large, on peut glisser très facilement dans la question du terrorisme d'abord, et évidemment dans l'apologie du terrorisme. Et par ailleurs, en 2021, votre consoeur l'a dit tout à l'heure, deux organisations qui n'ont pas d'existence légale en Algérie ont été classées terroristes. C'est le MAC, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est séparatiste, qui revendique l'indépendance de la Kabylie. Et deuxièmement, un mouvement islamo-conservateur, Rachad, qui est plutôt basé entre la Suisse, la France et le Royaume-Uni.
Et ce faisant, peut-on parler aujourd'hui d'une instrumentalisation du terrorisme ? Et
évidemment, il y a une instrumentalisation évidente de l'accusation de terrorisme pour une raison simple. Déjà, la définition est faite, est tellement large qu'elle inclut à peu près elle peut potentiellement inclure toute voie critique. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a des dizaines de poursuites pour terrorisme, même si à la fin, elles sont abandonnées. Il y a une instrumentalisation parce que le terrorisme en Algérie renvoie à une période, le terme renvoie à une période celle des années 90, qui est celle de la guerre civile, où le terrorisme, c'était poser des bombes et tuer, massacrer des gens. Donc, et c'est utilisé pour un mouvement qui a été pacifique, entièrement pacifique, le Hirak, donc pour criminaliser la revendication de démocratie et de changement politique radical du Hirak de 2019. Et depuis 2019, mais avec une intensification en juin 2021, il y a une répression méthodique en Algérie de toute voix critique, de toute voix dissidente, et ça touche la presse, ça touche les partis politiques, les syndicats, les associations, etc.
En France, l'arrestation de Christophe Gless a beaucoup été interprétée, dans le sillage d'ailleurs de celle de Boualem Sansal, comme une conséquence d'un contexte général de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Est-ce qu'il faut effectivement voir dans cette arrestation un message adressé par Alger à la communauté internationale et en particulier à la France ?
C'est l'hypothèse la plus répandue, mais ça s'inscrit aussi dans cette sorte de volonté de contrôle absolu du pouvoir actuellement, qui veut empêcher tout, d'abord, qui a besoin de cet ennemi intérieur qui est le MAC, pour montrer justement qu'il est l'un des piliers de l'unité nationale, et donc que le pouvoir se régénère à travers un discours nationaliste et à travers un discours de maintien de l'unité nationale, et aussi de repousser le danger de l'avatar du fils qui est celui qui est Rachad, donc ce mouvement islamo-conservateur classé aussi organisation terroriste. Donc ici, il y a une lecture aussi qui est peut-être aussi algéro-algérienne, qui est celle de la répression méthodique.
C'est bien compris. Merci Mouloud Boumgard, donc professeur de droit à l'université de Picardie, Jules Verne, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Y aura-t-il un budget à Noël ?
Et même deux, un projet de loi de finances générale et un autre de la sécurité sociale. Au vu de la complexité aujourd'hui du paysage politique, l'incertitude est à son comble. Mais Sébastien Lecornu, lui, veut encore y croire. Le Premier ministre continue de parier sur un compromis. C'est ainsi qu'après avoir reçu les élus de droit droite la semaine dernière. Puis les socialistes, les communistes et les écologistes. En début de semaine, le chef du gouvernement recevra aujourd'hui à Matignon les représentants du Rassemblement National.
Airbus, décidément du plomb dans l'aile.
Ce matin, le constructeur s'est résigné à réviser en baisse son objectif de livraison d'avions pour 2025, conséquence d'un problème de qualité sur des panneaux de fuselage de son appareil vedette, l'A320. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Le géant industriel européen a confirmé en début de semaine avoir identifié ce problème de qualité industrielle chez l'un de ses fournisseurs. Sauf que, pas plus tard que la semaine dernière, le groupe avait déjà révélé un autre incident qui l'a forcé à opérer donc un rappel massif de quelques 6000 avions pour remplacer de toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires.
Oui, concrètement, les éléments défectueux concernent des panneaux de fuselage qui se situent à l'avant de l'avion au niveau du cockpit. Des pièces qui sont fabriquées par l'entreprise espagnole Sofitec, qui est l'un des deux sous-traitants qui produit ces panneaux pour Airbus. Pour autant, la direction d'Airbus que nous avons eue ce matin se veut rassurante en expliquant qu'à court terme, ces défauts ne représentent pas de danger imminent pour la sécurité des vols, contrairement au problème de logiciel qui a obligé l'avionneur à clouer toute sa flotte mondiale d'Airbus A320 le week-end dernier. Une loi des séries qui tombe mal et qui ne sera pas sans conséquence au niveau financier, car cela va générer des dizaines de retards au niveau des livraisons d'ici la fin de l'année et même après, comme nous l'explique Arnaud Aimé, consultant aéronautique au cabinet Sia Partner.
Ça va retarder la livraison des panneaux pour d'autres appareils à construire. Donc, il y a un risque important qu'Airbus doive ralentir le rythme de sa production cette année. Surtout qu'on parle des A320, qui sont l'appareil star d'Airbus. Ça correspond aux trois quarts des volumes de livraison pour Airbus. Donc, un retard dans la livraison et donc un retard dans le paiement aussi par les compagnies aériennes. Ça, c'est encore plus important que les éventuelles pénalités en cas de retard de livraison.
En attendant, si Airbus espère maintenir ses objectifs financiers d'ici la fin de l'année, cette nouvelle crise a fait plonger son cours de bourse de 7% depuis le début de la semaine.
Merci Hakim Kasmi. Fleuron industriel français Brand joue désormais sa survie. L'audience devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre aujourd'hui devrait apporter un début de réponse face au risque de disparition du groupe centenaire d'électroménagers placé en redressement judiciaire. Depuis le début du mois d'octobre, parmi les offres déposées, seul a priori le projet de SCOP, comprenait de sociétés coopératives et participatives, permettrait de sauver au moins 300 emplois sur un total de 700 et constituerait par ailleurs l'unique possibilité de sauver les deux usines du groupe dans le Loiret et le Loir-et-Cher.
Midi et 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Généralement qualifié de stoïque, mais aussi parfois jugé complaisante avec les régimes autoritaires, l'ex-chef de la diplomatie européenne, l'italienne Federica Mogherini, a été inculpée ce matin dans une enquête sur l'usage frauduleux de fonds de l'UE. Deux autres suspects ont été interpellés, comme elle, hier à Bruxelles. L'enquête porte sur des soupçons de corruption, de conflits d'intérêts, de concurrence déloyale dans l'attribution de marchés publics. Les précisions de Jean-Jacques Herry.
Les accusations portées à l'encontre de Federica Mogherini sont liées à ses anciennes fonctions de chef de la diplomatie européenne entre 2014 et 2019 et à ses actuelles, celles de dirigeante du Collège d'Europe à Bruges, dont elle est rectrice depuis 2020. En 2021-2022, cet établissement très renommé s'est vu attribuer un programme de formation pour futurs diplomates européens après avoir remporté un appel d'offres lancé par le Service européen pour l'action extérieure, soit l'agence européenne que Federica Mogherini dirigeait encore quelques mois plus tôt. Ce que cherchent à savoir les enquêteurs, c'est si cet appel d'offres n'a pas été truqué. Les règles ont-elles été respectées? Les critères de sélection étaient-ils connus à l'avance par le Collège de Bruges pour lui permettre de l'emporter? Des accusations résumées ainsi par le parquet européen en charge de l'enquête, des faits de fraude et de corruption dans le cadre de marchés publics, de conflits d'intérêts et de violations du secret professionnel. C'est pour cela qu'une série de perquisitions ont été menées hier par la police belge au siège du service diplomatique de l'UE à Bruxelles, dans plusieurs bâtiments du Collège d'Europe à Bruges, ainsi qu'au domicile des suspects, trois suspects, Federica Mogherini donc, mais aussi un haut responsable de la Commission européenne, Stefano Sanino, ainsi que le directeur adjoint du Collège d'Europe. Tous les trois ont été inculpés à l'issue d'une journée d'interrogatoire.
Comme à son habitude, c'est le torse bombé que le président Vladimir Poutine a reçu hier. Steve Witkoff et Jared Kushner, non sans avoir pris soin auparavant de réaffirmer sa détermination à poursuivre la guerre, et sans surprise, ni l'homme des missions délicates de Donald Trump à plus que son gendre n'ont réussi à convaincre le maître du Kremlin de trouver un compromis sur l'épineuse question des territoires occupés par la Russie en Ukraine. Tout juste les deux parties ont-elles convenu, après 5 heures de discussion jugée utile, de poursuivre leurs efforts. Bref, à l'Est, rien de nouveau donc, et surtout pas sous le ciel ukrainien qui le mois dernier aura été déchiré par plus de 5660 missiles et drones longue portée. En attendant, et près de 4 années après le déclenchement du conflit, Bruxelles entend toujours priver Moscou de la manne tirée de ses hydrocarbures et qui finance en partie sa guerre d'invasion. Et c'est ainsi qu'hier, un accord a finalement été trouvé pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE, sous réserve toutefois que les stocks soient suffisants, et au plus tard à l'automne 2027. Alors pourquoi si tard? Le Parlement souhaitait une interdiction plus rapide, mais les États membres, eux, voulaient prendre un peu plus de temps. C'est une correspondance de Fabien Cazot.
Ce sont d'abord les contrats courts signés avec la Russie, ceux qui sont les plus faciles à arrêter et à remplacer, qui devront s'interrompre dès le printemps prochain. En avril, pour le gaz naturel liquéfié qui arrive dans les grands ports européens par bateau. En mai, pour le gaz qui arrive encore par des gazoducs en provenance de Russie. Ce sont ensuite les contrats d'approvisionnement à long terme qui sont appelés à s'éteindre. Au 1er janvier 2027, comme cela a été prévu dans le dernier paquet de sanctions économiques adoptées contre la Russie pour l'importation de GNL, et donc à l'automne 2027 pour les derniers contrats à long terme d'approvisionnement par gazoduc. Juridiquement, l'équivalent d'une clause de force majeure pourra être invoquée pour la résiliation des contrats existants. L'Union européenne espère ainsi se libérer totalement de sa dépendance au gaz russe, qui représentait encore l'an dernier 19% du total de ses importations.
Un véritable globe-trotteur.
Oui, lui qui n'aime rien tant que vanter les mérites d'une intimité stratégique aux dirigeants du reste du monde. Emmanuel Macron est attendu en Chine aujourd'hui pour sa 4e visite officielle. Et même si les relations entre les deux pays sont globalement satisfaisantes, les sujets possibles de crispation ne manquent pas, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine et plus précisément de la position de Pékin accusée, sinon de soutenir la machine de guerre de l'envahisseur russe, à tout le moins de ne pas condamner cette invasion, mais aussi des tensions commerciales croissantes, notamment après la décision du géant asiatique de limiter l'exportation de terres rares, et par ailleurs des politiques plus protectionnistes défendues par la France, laquelle milite pour la hausse des droits de douane sur les véhicules électriques et l'acier chinois. Le président allemand Steinmeier est lui attendu au Royaume-Uni aujourd'hui, 3 jours de visite avec, outre les cérémonies protocolaires, un banquet d'État au château de Windsor et un discours au Parlement, un honneur plutôt rare pour un visiteur étranger, symbole d'une alliance ressoudée donc entre les deux pays après la période turbulente qui a suivi le Brexit.
Enfin, retour en France avec l'ouverture au public à partir d'aujourd'hui d'un nouvel espace dédié aux arts et civilisations du monde.
Oui, une approche décloisonnée de l'histoire mondiale de l'art, fruit d'une collaboration entre le musée du Quai Branly et le musée du Louvre. Rendez-vous donc à la fois quai Jacques Chirac, mais aussi toujours en bord de Seine côté Tuileries, cette fois-ci pour la réouverture de la Porte des Lions et de l'ancien un pavillon des sessions rebaptisé pour l'occasion Galerie des 5 continents. La visite est signée Éric Chavreau.
Une galerie des 5 continents pour 130 œuvres dans laquelle le Louvre dit mettre en dialogue les cultures en collaboration renforcée avec le Quai Branly dont le lieu marquait la préfiguration. Dès l'entrée, une tête de Moai de l'île de Pâques regarde désormais un sarcophage égyptien qui clôt le parcours. Et dans une présentation thématique et plus géographique, une maternité Dogon côtoie une vierge à l'enfant espagnole, non loin de la statuette mexicaine Chupicuaro, emblème du Quai Branly. Des pièces viennent aussi du musée Guimet, de la BNF ou encore du musée d'Aquitaine ou de Boulogne-sur-Mer, ainsi que d'un dépôt exceptionnel du Nigeria. En revanche, le dieu Gou, pièce maîtresse du culte vaudou, dont le Bénin réclame depuis plusieurs années la restitution, ne figure plus dans les vitrines épurées et préservées de Jean-Michel Villemotte. Jacques Chirac avait imposé ici l'intégration des arts d'Afrique, d'Océanie et des Amériques au Louvre, et c'est le milliardaire Marc Ladret de La Charrière qui a payé via sa fondation les 2 millions d'euros nécessaires à ce chantier, avec un accès méconnu par la Porte des Lions relancée qui pourrait soulager le Louvre, il avait fermé il y a 1 an. Mais les joyaux de la couronne n'ont toujours pas été retrouvés et difficile d'oublier le récent rapport accablant de la Cour des comptes sur la gestion du musée le plus fréquenté du monde, épinglant notamment le projet Renaissance et sa nouvelle entrée.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, avec partout un ciel brumeux duquel perceront quelques éclaircies. En revanche, de fortes averses arroseront encore le sud-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malrey. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.